Radio Campus, il est midi.
Les minutes de la fin du monde.
Non, mais c'est bon, il y a des entreprises qui ont des solutions dans les cartons.
De toute façon, je vais te dire, l'humanité s'en est toujours sortie.
On est hyper moteur sur le développement durable.
Les minutes de la fin du monde. Chers auditeurs de Radio Campus, quel plaisir de vous retrouver en ce mois de juin 2025, le mois qui va changer nos vies. Déjà, en juin, le cheval sans l'écurie, l'étudiant, l'étudiante sans les partiels, mais aussi les rattrapages et les stages. Et nous, on sent la guerre. C'est pas une nouveauté de dire que la guerre, c'est pas écolo. On a déjà un bel historique de produits toxiques et excessivement polluants utilisés dans les guerres. J'ai au moins en tête le napalm des Américains au Vietnam, le gaz moutarde aussi. Et puis, quand on a dessous de connaissances en chimie, ce qui, sans faire de tort à personne, n'est pas fréquent, on se souvient que les formulations des explosifs sont assez proches des désherbants. C'est pas pour dire, mais il y a étrangement un lien fort entre la guerre chimique contre des humains et la guerre chimique menée contre la nature. Et du point de vue écologiste, il n'y a rien à sauver. Il y a encore peu de temps, on pouvait s'abriter sous le parasol anti-dégénante de la protection de la démocratie. Ah, que c'était pratique de sauver la démocratie un peu partout dans le monde. On arrive encore un peu à se le faire croire en Ukraine, même s'il est maintenant assez apparent que l'Ukraine n'intéresse les Américains et l'Occident de façon générale que pour deux raisons. Son immense richesse en ressources primaires et agricoles, et empêcher les Russes d'en profiter. Évidemment, à Gaza, c'est encore plus clair. La démocratie israélienne n'est pas franchement en péril, ou en tout cas, elle n'est pas mise en péril par la Palestine. Quant à la démocratie en Palestine, il faudrait déjà qu'il reste de quoi organiser quelque chose. Et pendant ce temps, l'Europe se réarme. Concrètement, physiquement, elle a décidé de réarmer et chaque État se réarme individuellement et on trouve plein de budget pour le faire et même on arrive à râler que ce n'est pas assez. Donc, on résume la situation complètement ubuesque. On a une crise écologique mondiale. On a un système économique capitaliste, néolibéral, qui nous entraîne de façon consciente dans cette crise écologique mondiale. Ce système trouve un moyen de se défendre, de se préserver. Les riches, les dominants, les décideurs et décideuses politiques promeuvent un nouvel objectif global, le développement durable. Bon, déjà, il semblerait que les riches et les politiques n'ont pas eu idée avant 1989 de faire du développement durable. C'est quand même le signe d'un système scandaleusement stupide. Mais bon, continuons le raisonnement. On se rend compte que ce nouvel objectif qu'est le développement durable va nécessiter de nouvelles ressources. Et en plus, des ressources fossiles que personne, mais alors personne n'a l'intention d'abandonner. Et ces ressources, il va falloir les sécuriser. Mais oups, on n'est pas les seuls sur le coup. Nos amis américains sont de moins en moins nos amis. Nos amis russes ne sont plus nos amis. Nos amis chinois ne sont pas nos amis. Nos amis indiens n'ont pas l'intention d'être nos amis plus que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer des armes de super haute technologie, avec des ressources qu'on n'a pas et qu'on va importer via nos pas vraiment amis. Et en plus, ce sont précisément les ressources dont on avait besoin pour faire du développement durable. Pas de chance, va falloir choisir. Mais d'un autre côté, quelle chance quand même, puisqu'on va pouvoir produire des armes. Et ça, ça va alimenter la croissance. Finalement, tout est bien qui finit bien pour le capitalisme. Mais pas pour nous. Pas pour les humains, pas pour les non-humains non plus. Préparez-vous à souffrir. Alors indignez-vous, luttez. Ou simplement refusez, ce sera déjà ça. Dans cette édition de juin des Minutes de la fin du monde, nous allons avoir un journal de midi 12, comme d'habitude pas pile poil à midi 12, mais bon, ça ira. On aura probablement une chronique musicale, on aura aussi une diffusion d'un texte d'appel des soulèvements de la Terre, et on terminera par la chronique presque positive d'Arnaud. Vous n'allez pas me croire, mais il est en gros midi 12.
Ben, oui. Non, on ne te croit pas. Moi, je te crois pas.
Oui, alors, voilà, tout ça parce qu'on enregistre. Oui. Bon, enfin, en tout cas, c'est l'heure du journal de...
Midi 12.
On commence par les titres. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, ou pas. Le glacier de Birch, dans le Valais, en Suisse, s'est effondré fin mai, engloutissant, sous 3 à 9 millions de mètres cubes de boue et de glace, une partie du village de Blatten.
Ah ouais.
Ouais, on va y revenir.
C'est à cause de quoi, Alexandre, aussi?
Où on s'en sait?
Il y a quelqu'un qui a marché dessus, à tous les coups?
Non, je crois même pas. Alors, il y a un disparu dans l'affaire. Les autorités avaient fait évacuer le village 9 jours auparavant, pour vous dire qu'ils ont vu venir le truc quand même. C'est assez soudain, pour les géologues en tout cas, et les glaciologues. Mais ils l'ont vu venir, le glacier se déplaçait dans les derniers jours à environ 10 mètres par jour.
Oui, ça
voilà. Plusieurs effondrements avaient eu lieu dans les 24 heures précédant l'éboulement massif. Si vous n'avez pas vu les images, je vous conseille de prendre les 3 minutes nécessaires. Vous allez sur le site de la RTS, la radio et télévision suisse. Vous cherchez Blatten, B-L-A-T-T-E-N, et vous regardez les images de la nature qui dit non.
Elle dit non à quoi, Alexandre?
Elle dit non à tout ce qu'on fait. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec le changement climatique quand un glacier s'effondre. Je n'ai pas vu sur le site de la RTS de commentaires là-dessus pourtant. Pour le moment, ils en sont à parler de la catastrophe, de reloger les 300 habitants et habitants du village, de reconstruire le village, de où reconstruire le village, parce qu'à peu près toute la vallée est, devinez quoi, en zone rouge, interdite de construction à cause des risques d'avalanche.
Ouais.
Ah oui.
Et honnêtement, après avoir vu les images, même si c'était mon village depuis tout petit, j'aurais pas très envie de construire une maison en zone rouge. Ils ont pourtant déniché un expert. Ouais, vas-y.
Après, le glacier n'est plus là, donc tu crains plus grand-chose.
Si, en fait, il y a une partie du glacier qui s'est...
Ah, d'accord, je suis naïf.
Ils ont quand même déniché un expert hydrologue qui dit que si, on peut construire en zone rouge,
à condition de construire solide et de rajouter des digues anti-avalanches pour faire repasser la zone en zone orange. Moi, je serais hyper rassuré.
Oui, pas moi.
Voilà. Et puis on nous parle du retour des touristes dans la vallée, donc de l'activité économique et de l'aide de l'armée, mais de réchauffement climatique, même pour évoquer la possibilité ou dire qu'on n'est même pas peut-être sûr, pas un mot. Étrange, non ?
Ah oui, c'est bizarre.
C'est pas très à la mode, le réchauffement climatique, Alexandre. Ouais. C'est pour ça. Ouais.
J'ai l'impression. Hein. Enfin bon, allez voir les images, franchement, c'est assez impressionnant le moment où ça s'effondre. Deuxième sujet, je vous avais promis un sujet exceptionnel. Hein.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ouais, ouais. Je vous l'apporte sur un plateau d'argent ou de terre rare, si vous préférez. Alors, je vous propose le jeu suivant. Je vous lis la description de ce workshop, de cette journée scientifique, si vous préférez. Et vous essayez de me donner le nom de ce nouveau domaine transversal de la recherche scientifique.
D'accord.
Okay. Je vous préviens que j'ai un peu changé l'ordre des paragraphes pour faire monter le suspense. Parce qu'évidemment, il donne le nom dès le début, sinon.
Nous t'écoutons. Alors,
Arnaud, est-ce que tu prends la main ?
Je prends la main.
Ok. Pour 4 points. Top. Organisé par CNRS Ingénierie, cette journée scientifique est l'occasion de présenter l'état actuel et les perspectives de recherche dans ce nouveau domaine transversal en plein essor, afin de mettre en lumière son extraordinaire potentiel. Par cette action, le CNRS souhaite également recenser et soutenir la communauté de recherche afin de favoriser le développement de concepts et de systèmes innovants. La main passe à Amina. Un changement de paradigme dans l'observation des milieux naturels et anthropisés est nécessaire afin de relever les grands défis sociétaux et environnementaux du XXIe siècle. Il est aujourd'hui indispensable de développer et d'implanter in natura les capteurs environnementaux du futur en vue de surveiller les zones d'intérêt critique et définir l'état et l'évolution des ressources naturelles, d'identifier les changements et anticiper les impacts dus au changement climatique.
L'IA au service de la nature.
Ah ouais, mais il y a un vrai mot à trouver. La main passe à Arnaud, du coup.
J'ai dit l'IA.
Ouais, ah ouais, mais ouais, il y a un vrai mot. D'identifier les changements et anticiper les impacts dus au changement climatique et de contribuer au système d'alerte précoce.
La nature connectée.
Ouh, on se rapproche. La main repasse à Arnaud.
La nature intelligente.
C'est pas loin, c'est un seul mot. Et prévenir les risques. Dans ce cadre général de monitoring environnemental, ce nouveau domaine de recherche peut se révéler très pertinent. Elle se définit comme l'interfaçage entre l'électronique et le végétal. Il s'agit en particulier, mais pas exclusivement...
La végétalisation, un truc comme ça, non ?
Oh, il n'est pas loin. De se servir de la plante pour grappiller de l'énergie multisource biologique, biopile, énergie biochimique et non biologique, mécanique, photovoltaïque, et ainsi auto-alimenter l'électronique de gestion et d'analyse d'un capteur conventionnel, d'un biocapteur conventionnel.
Ah, j'ai. Ouais. L'électro-végétalisation.
Oui, presque. Oh là 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 là.
L'électro-végétalisation.
Presque. Mais aussi d'être capable d'analyser in natura l'état d'une plante considérée comme biocapteur, afin d'évaluer un éventuel stress, qu'il soit biotique ou abiotique. À terme, il s'agira de corréler ce stress de la plante au stress environnemental l'ayant causé à des fins de biosurveillance environnementale. Par essence transversale.
Électronaturalisation ?
Ah, presque. Non, t'étais plus proche avant. Ouais, cette discipline englobe plusieurs axes de recherche, les biopiles, les microsystèmes végétaux, l'électrophysiologie végétale, la bioélectronique organique, mais elle ne peut pas s'aborder sans prendre en compte des considérations éthiques. Je suis...
La bioélectronique.
Ah, presque.
Organique.
Oh, il y est. C'était la végétronique.
La végétronique. Oh.
Aïe.
Il est fort.
C'est beau.
Moi, j'aurais jamais trouvé.
Il ne manquait plus que ça. Il a dit l'électro-végétalisme, c'était pas loin. Il ne manquait
la
plus que ça.
On va caser. Wow.
Et c'est ce truc-là que tu m'as dit qui était passé et que je l'ai pas vu.
Ouais.
Oh non, je l'ai pas vu. Non.
On va caser des capteurs électroniques sur les plantes pour monitorer leur bonne croissance. Qu'est-ce que vous en pensez de cette végétronique ?
Ah, bah c'est merveilleux. La vraie question, c'est comment faisait la nature avant ?
Ah oui, c'est une bonne question. Ça. Elle n'a pas dû s'en tirer toute seule.
J'ai une autre question, c'est comment l'électronique faisait avant ?
Ah mais vous avez entendu le concept, ça il était assez intriguant, le concept de grappillage énergétique.
Oui.
Apparemment, c'est un vrai truc. Hein.
Ah, on veut.
Grappiller de l'énergie.
Grappiller de l'énergie chez les plantes ?
Oui, alors là, c'est multisource, mais voilà, tu as des capteurs qui sont censés s'auto-alimenter en captant de l'énergie autour d'eux.
Mais ça sert à quoi ?
À monitorer.
Mais pour faire quoi ?
eh ben, balancer des produits phytosanitaires, des désherbants et compagnie, et des pesticides.
Je crois que c'est ça, moi je pensais que c'était pour avoir la santé des plantes.
Oui, bah oui, mais pourquoi tu as la santé des plantes?
Oui, parce que tu fais n'importe quoi.
Parce que tu veux mettre des désherbants. Tu
n'as pas besoin de guérir quelque chose qui n'est pas malade.
Voilà. Ah, ensuite, bon, Arnaud,
oui.
Tu nous as envoyé un lien hier en mémoire d'un super produit dont tu avais déjà vanté les mérites il y a quelques temps.
Oui, bah j'adorais ce produit, hein, Alexandre.
Je dis en mémoire parce que, paix à son âme, l'entreprise en question a fait faillite.
C'est triste. C'est vraiment triste de savoir que des ingénieurs ont travaillé pendant des années, des mois, sur une invention révolutionnaire qui allait changer la vie de millions de personnes et que, parce que le business plan était mal posé, ça n'a pas marché.
Et nous parlons donc de Joy Zero, je ne sais pas ce que
c'est. Joy Zero, exactement. La machine à presser les jus de fruits. En dosette, bien sûr.
Voilà. En gourde comme les compotes, là.
C'est ça. Et en fait, certains journalistes se sont rendus compte qu'en pressant à la main la capsule, ça marchait aussi bien qu'avec la machine à $700. Manque de peau.
Alors, je peux me redonner 2-3 chiffres intéressants. Donc, $700 la machine, elle était tombée à $200 dans les derniers temps.
Ah bah oui.
Dans l'espoir d'en vendre, parce qu'en fait, n'en vendait pas. Quelle tristesse. Et donc, d'après le lien que tu nous as donné, en 4 ans d'existence et seulement 16 mois de commercialisation du produit, Joy Zero avait quand même réussi à lever $118 million.
Ah oui, c'était 118 millions de dollars.
De quoi s'assurer une belle retraite, même sans avoir contribué en quoi que ce soit de positif à l'humanité.
Ouais, j'espère au moins pour eux qu'ils en ont mis à votre côté. Bah, de faire un truc qui marche vraiment pas, autant le piquer complètement.
Moi, je trouve qu'il ne faut pas donner des idées aux auditeurs et aux auditrices. Hein.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Allez, on va lancer un truc. On est sûr que ça ne marche pas. Ah là là.
Et on devrait essayer de faire tous les objets que tu as fait depuis un an pour voir s'ils ont tous périclité au bout d'un certain nombre de temps.
Ah oui, on peut faire ça. J'ai commencé à regarder, mais c'est un peu long, donc on peut le faire. Oui. Je peux le faire pour la prochaine fois. Tiens.
C'est bonne idée. Devenir des startups, hein. il y a de la perte.
Oui, c'est ça. Sur une startup, t'en lances 100, il y en a une qui marche.
Oui, c'est de la perte de matière, d'énergie et d'argent, quoi.
Et d'intelligence.
Ah, bref, un dernier sujet rapide à traiter que j'ai rapporté, ça fait un petit moment, avril, mais c'est pour le plaisir parce que c'est vraiment magnifique. C'est un article du Dauphiné Libéré. Malgré le climat, le tourisme de neige toujours au top. voilà.
Ça veut dire qu'on apprend à faire de la... Comment on appelle le ski sur eau, là?
Le ski nautique.
Le ski nautique, voilà.
Ah non, on est toujours dans la neige. Et alors, figurez-vous que le tourisme de neige se développe à l'échelle mondiale. Et même si dans les Alpes, en raison des peut-être difficultés climatiques à avoir de la neige, il y a un petit peu moins de fréquentation, à l'échelle mondiale, tout va bien. Il y a de plus en plus de skieurs et de journées ski. On est rassurés, hein ?
On est rassurés, Alexandre. Tout va bien.
Voilà. Alors, il y a des morceaux très intéressants dans cet article. Il n'est pas très long, hein, mais... ils nous disent « La fréquentation des stations continue d'être essentiellement façonnée par l'enneigement et les conditions météorologiques. » Oh, sans blague. Bien que le changement climatique ait évidemment un impact sur leur fonctionnement, il ne semble pas à ce stade avoir un impact substantiel sur la fréquentation mondiale.
Oh.
Voilà. Et là, la phrase d'après, elle est fantastique. « Soleil et neige sont les deux matières premières de ce tourisme. »
Oh.
Bah, ils sont forts quand même, les journalistes.
Un peu de béton et de pétrole, mais sinon.
Mais est-ce que tu as vraiment regardé? Peut-être que les gens, c'était ironique l'article là. Peut-être c'est un faux article.
Non,
je crois pas. Non.
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 Donc c'est pas ironique à votre.
Non.
Non, ils ont trouvé un expert qui dit que c'était une saison business as usual.
Et qui
même arrive quelque part dans l'article à se plaindre que quand même les médias sont pas cool à dire que ça va être la fin du ski, c'est pas vrai.
Et voilà. Juste une question.
Ouais.
Pourquoi tu lis Le Dauphiné Libéré?
Ah, mais c'est toujours très intéressant d'acheter un journal local.
Oui.
Il y a toujours des trucs très intéressants à trouver dedans. Il y a beaucoup de chiens écrasés, on est d'accord. mais voilà, très bien, très bien. Et figurez-vous, ah, ça c'était intéressant aussi, en marche vers l'objectif fixé par Xi Jinping de 120 millions de skieurs en Chine.
Quoi ?
Le dirigeant chinois Xi Jinping a un objectif d'arriver à 120 millions de skieurs chinois.
Trop bien.
C'est un objectif, tu vois, de gouvernemental.
Et en gros, il facilite l'accès aux montagnes, ou je comprends pas.
Ouais, bah ils sont en train de développer les stations en Chine.
Le ski en Chine, hein. Comme du commerce, du tourisme.
Voilà, on a une hausse de la fréquentation de 16% en Chine.
Ah oui. Oui, peut-être que les gens deviennent de plus en plus riches parce qu'aller skier, aussi, ça coûte cher.
Le ski en Chine, c'est marqué, dépasse le Canada et talonne la Suisse.
Ah ouais.
Quand même. Non, mais tout va bien, tout va bien. Mmh. Voilà. Et ah, il y en a quand même une dernière qui vaut le détour, une citation de l'expert là. Après plus de 20 ans de promesses, la digitalisation contribue à l'amélioration du parcours client.
Digitalisation contribue à l'amélioration du parcours client.
Contribue peu.
Ouais. Ah bon?
Ouais.
Voilà. Ah, donc ils n'ont pas assez digitalisé le ski.
Ouais.
Voilà, ils n'ont pas assez digitalisé le ski, exactement.
Bah, peut-être qu'on n'a pas compris, peut-être c'est pour faire de la réalité virtuelle. C'est pas voilà. Du ski.
D'accord. Voilà, c'est la fin de ce journal de midi 12 avec des
Merci
nouvelles
Alexandre.
Assez, assez fantasques, je trouve. C'était assez diversifié pour une fois.
Ah bah oui, il y a un peu de tout. On est au mois de juin, on parle de ski quand même.
Et on se fait une petite pause musicale et on retrouve les minutes de la fin du monde dans quelques minutes.
Et on est de retour dans les minutes de la fin du monde sur Radio Campus 106.6 FM, sur internet campuslille.com, sur le DAB+, partout dans le monde. De toute façon, vous n'échapperez pas à Radio Campus Lille. C'est le moment d'habitude de retrouver la chronique des soulèvements de la Terre. Alors, on n'a pas eu de candidat volontaire ce mois-ci, donc je vais m'en occuper moi-même. Et pour cela, je vous propose de partager avec vous le dernier billet des soulèvements de la Terre, qui parle de, justement, c'est en lien avec l'édito, de la guerre. Ça s'intitule « De terre en guerre, pourquoi les soulèvements de la Terre appellent à faire la guerre à la guerre ?» Dans la propagande gouvernementale, il est chaque jour question d'économie de guerre, de sécurité, de menaces et de réarmement. Dans ce contexte, les soulèvements de la Terre se joignent à la coalition Guerre à la Guerre pour appeler à la mobilisation le 21 juin prochain contre le salon d'aviation militaire du Bourget. Ce texte déplie les raisons profondes qui motivent notre participation à cette initiative. La France et la logique de guerre. Le discours médiatique et gouvernemental ambiant sur le retour de la guerre omet que celle-ci, pour de nombreux peuples, n'a jamais vraiment cessé. Cette prétendue nouveauté fait généralement bien peu de cas de la longue histoire du génocide en cours à Gaza, de l'interminable conflit armé et de toutes ces guerres qui persistent au Soudan, dans le Sahel, au Yémen, etc. La France n'a jamais rompu avec son héritage colonial. Elle ne se distingue pas dans ses nombreux conflits par une quelconque stature morale ou une défense acharnée des droits humains. Et pour cause, les guerres, même les plus lointaines, se fabriquent près de chez nous. La France est le deuxième exportateur d'armes au monde. La prolifération des conflits armés est pour elle un business lucratif. Elle est complice des massacres de civils en Palestine, au Soudan. Elle laisse ses entreprises contourner l'embargo pour livrer des armes à la Russie. Elle continue à opérer dans divers pays par des moyens militaires, de manière ouverte ou en sous-main, pour piller les matières premières, l'uranium ou le nickel. Elle cherche toujours à maintenir sa domination impériale sur une partie de l'Afrique et de l'Indo-Pacifique. La logique de militarisation infuse aussi depuis longtemps déjà sur le territoire national où se renforce un continuum sécuritaire armée-police-frontière. Celui-ci vise l'ennemi intérieur, les étrangers et les musulmans, musulmanes, les déviants, les opposants politiques. En témoignent les morts et les mortes aux frontières de l'Europe, les tanks envoyés contre les révoltés solidaires de Naël, les crimes coloniaux en Kanaky, les pluies de grenades à Sainte-Soline ou sur les derniers mouvements sociaux. Ce sont les mêmes entreprises qui fabriquent les armes de guerre et celles du maintien de l'ordre. Le gouvernement compte sur leurs innovations pour faire face aux contestations. Ne nous y méprenons pas, en matière de politique intérieure, l'appel à la remilitarisation marque le prolongement perpétuel d'un état d'exception qui est désormais devenu la norme. C'est un sauf-conduit donné à l'État, réduit à son plus simple appareil, un organe militaire et policier gangréné par l'extrême droite. Dans la bouche de ce gouvernement, le réarmement, c'est aussi un moyen d'approfondir la guerre de classe menée contre les milieux populaires. Démantèlement continu des systèmes de soins et des systèmes de protection sociale, la dégradation des conditions de travail et des droits sociaux. Leur guerre contre la terre. Les guerres, la prise militaire des terres et l'asservissement armé des populations qui les habitent sont un levier historique du déploiement du capitalisme fossile. Elles sont l'instrument et le moteur de l'extractivisme effréné et de l'accaparement de l'eau, du pétrole, du gaz, des minerais et des terres agricoles. Les destructions massives engendrées par les conflits armés représentent un commerce juteux pour les marchands d'armes et de béton. La guerre est rentable. Trump l'assume ouvertement. Il planifie le racket des terres rares d'Ukraine et projette de construire un luxueux complexe immobilier à Gaza en déportant des dizaines de milliers de civils. Les reconfigurations géopolitiques en cours marquent une nouvelle étape de ce processus de pillage. De la Cisjordanie aux Pays-Baltes, du Congo au Groenland, l'intensification de la catastrophe climatique et la raréfaction des ressources débrident encore les desseins expansionnistes des plus grandes puissances militaires. La croisade internationale des élites mondiales pour renforcer leur niveau de vie et leurs profits, en dépit de l'effondrement écologique manifeste, est un motif essentiel des guerres d'aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'en Occident, une cohorte de milliardaires redouble d'efforts pour mettre au pouvoir des régimes autoritaires. Des luttes écologistes au complexe militaro-industriel. Si les luttes écologistes et les luttes antimilitaristes ont été si longtemps complémentaires, c'est qu'il y a une continuité entre les infrastructures de guerre et celles de destruction des terres. Trois exemples éclairent cette imbrication mortifère. Ce que nous nommons complexe agro-industriel correspond à l'adaptation des technologies militaires à des fins agricoles après 1945. Celle-ci, avec la généralisation de l'agrochimie et la course à la mécanisation, a joué un rôle crucial dans la destruction de la classe paysanne et de la biodiversité. Aujourd'hui, il est même question d'un complexe agro-militaire israélien pour désigner l'enchâssement des politiques agricoles et militaires en contexte colonial. Avant de décrire le processus global de destruction de la planète, le concept d'écocide fut originellement forgé pour décrire la destruction massive des forêts et mangroves par les bombardements et l'agent Orange pendant la guerre du Vietnam. Pour détruire les maquis du Viet Cong, l'armée américaine a détruit 20% des forêts du pays et 400 000 hectares de terres agricoles. Les essais nucléaires de la France ont empoisonné des populations et ravagé des milieux dans le désert algérien et l'archipel polynésien. Ces territoires en subissent encore les conséquences sanitaires et environnementales. L'acquisition de la dissuasion nucléaire française fut, elle aussi, le fruit d'un écocide dans ces colonies. Face à cette imbrication entre le complexe militaro-industriel et les infrastructures qui ravagent la Terre, nous devons repenser aujourd'hui l'articulation entre nos résistances écologiques locales et la lutte internationale contre les guerres impérialistes. Quand nous luttons contre l'entreprise ST Microelectronics à Grenoble en mars 2025, nous nous opposons ainsi dans un même geste à l'accaparement de l'eau, à son intoxication et à la fabrication de composants électroniques qui finissent entre les mains des armées israéliennes et russes. Quand nous visons des sites Lafarge-Holcim, multinational en procès à l'automne pour financement du terrorisme, nous visons à la fois les acteurs de l'artificialisation en France et un grand prédateur de guerre au Moyen-Orient. Apprendre des anti-impérialismes et des antifascismes. Il nous semble aujourd'hui vital de réactiver l'héritage subversif des paysans paysannes du Larzac et des féministes de Greenham Common qui ont fait vivre une écologie antimilitariste, mais aussi celui de l'internationalisme ouvrier et des luttes contre le colonialisme qui sont à l'origine de la critique anti-impérialiste. C'est en réactualisant ces histoires dans nos luttes actuelles, à l'aune des bouleversements mondiaux en cours, que nous pourrons reconstruire un front contre les impérialismes et leurs guerres. La coalition Guerre à la Guerre regroupe notamment Urgence Palestine, SEDEC Survie, le collectif Sans Papiers 75, Vietnam Dioxine, la Marche des Solidarités, l'Assemblée Féministe Paris Banlieue, Désarmons-les, des comités étudiants pour la Palestine, Réseau Vérité et Justice, etc. De la Palestine à la France-Afrique, en passant par la répression aux frontières ou aux impacts de la chimie de guerre, tous sont en prise avec les aspects les plus destructeurs du complexe militaro-industriel à l'international, ainsi qu'à ses déclinaisons sur le territoire français. À l'échelle mondiale, les champs des conflits et d'alliances entre blocs autoritaires se reconfigurent, mais les guerres perdurent. À l'intérieur des États, en France comme ailleurs, les forces réactionnaires sont à l'offensive. Dans l'histoire, les menaces de guerre ont alimenté la montée du fascisme, et celui-ci a systématiquement été l'initiateur de guerres impérialistes. Ne laissons pas un gouvernement français déjà indirectement inféodé à l'extrême droite utiliser la rhétorique de la guerre pour nous faire croire qu'il va nous protéger. Ne les laissons pas nous diviser et faire croire que la condamnation la plus ferme du génocide en Palestine ou l'islamophobie en France équivaut à cautionner l'antisémitisme. La menace internationale que représentent Trump ou Poutine est réelle, mais le danger est bien aussi incarné ici par Retailleau, Darmanin, Bolloré ou Bardella. Leur tenir tête tout en se donnant les moyens de solidarité internationale nécessite de renouveler ici les liens au sein du camp écologiste, syndical, féministe, antiraciste et antifasciste. Il n'existe pas de meilleur moyen pour cela que l'action commune. Ni pacifisme, ni union sacrée. Guerre à la guerre fut le cri de Rosa Luxembourg ou de Jean Jaurès à la veille de la grande boucherie de 14-18. La formule condense aujourd'hui le paradoxe qui nous travaille. Nous sommes contre la logique même du complexe militaro-industriel, mais nous assumons qu'en Palestine, en Ukraine ou ailleurs, les peuples ne peuvent toutefois pas se défendre sans armes face aux invasions impérialistes, coloniales ou aux dictatures qui les écrasent. Les possibilités d'autodétermination populaire dont nous sommes solidaires tiennent aux moyens très concrets de faire face aux guerres. Elles relèvent d'une urgence permanente à trouver des appuis divers, autant que faire se peut par le bas, aux besoins de la résistance. Elles inventent et maintiennent des équilibres précaires entre les nécessités de la lutte armée et l'idéal de la souveraineté populaire entre les dynamiques de la militarisation et celles de l'émancipation. Depuis la France, notre engagement face au complexe militaro-industriel chemine sur une ligne de crête. Ni opposition morale de principe à toute guerre en s'exonérant de prendre part dans les conflits en cours, ni ralliement à l'union sacrée derrière notre État-nation, inaction face à la course à l'armement et acceptation passive des sacrifices qu'il veut nous imposer en son nom. Le soutien militaire, aussi sélectif qu'intéressé des gouvernements occidentaux face à la Russie, ne peut pas être le nouveau prétexte impératif pour justifier ici de nouvelles régressions sociales et écologiques assorties d'un recul des libertés publiques. Il ne doit par ailleurs en aucun cas constituer un laissez-passer pour le complexe militaro-industriel, un argument pour se priver d'attaquer ses méfaits ou de laisser s'étendre son emprise sur toutes les strates de la société. agir contre la dynamique capitaliste et impérialiste du complexe militaro-industriel, viser les entreprises complices de génocides et de crimes de guerre, c'est refuser de laisser les états-majors militaires et des multinationales de l'armement décider seuls des ressorts de la guerre et de la paix en vue de servir leurs propres intérêts. Les soulèvements de la Terre, avril 2025. Enfin, guerre à la guerre dès le 21 juin au Bourget. La coalition Guerre à la guerre appelle à une première action commune à l'occasion du Salon de l'aviation militaire au Bourget le 21 juin prochain, où la présence de sociétés militaires israéliennes a été confirmée par Macron, entre autres ventes d'armes au pire régime de la planète. Nous nous y joignons parce que nous refusons de rester spectateurs, spectatrices face à la reprise intense des bombardements sur Gaza et au plan de déportation de la population palestinienne, parce que nous refusons d'être réduits à l'impuissance face à l'offensive antisociale et anti-écologique menée au nom de l'économie de guerre. Parce que nous refusons qu'aux portes de Paris s'opèrent des transactions mortifères entre complices de génocide et de crimes de guerre. Contre la marche forcée de l'économie de guerre et face au génocide en Palestine, nous serons là.
Drunk feel. Berkeley. On drums, Mr. Andrew Nauman. Very nice. On my left, maestro, an acoustic guitar, lap steel, vocals, and all these other things. On guitar, Mr. Willie Edwards! On a six-string bass, five-string double bass, Mr. Matthew Brooks! Got it. Right, you're getting the idea. Stick your hands above your heads. Bang them together. Repeat after me. Good times. 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 Good times.
On est de retour dans les minutes de la fin du monde, ça sent la fin de l'émission et donc l'heure de la chronique presque positive d'Arnaud.
Presque.
Qu'est-ce que tu nous as trouvé d'horrible encore une fois ?
Oh, c'est pas horrible, c'est positif je pense. Enfin, c'est presque positif, on verra bien. Oui, quel plaisir de vous retrouver pour notre belle émission des minutes de la fin du monde. Partout sur la planète, les voyants sont au vert, au rouge et on nous montre que notre belle espèce humaine se dirige peut-être dans la mauvaise direction. Actuellement, sur Terre, il y aurait plus de 110 conflits armés, dont voici une petite liste: Ukraine, Palestine, Soudan, RDC, Yémen, Somalie, Haïti, Afghanistan, Pakistan, Iran et tous les autres dont on ne parle jamais parce que c'est sûrement beaucoup moins important que des choses moins importantes de chez nous. On a aussi le Groenland qui a enregistré sa plus grosse perte de calotte glaciaire jamais enregistrée, 17 fois plus rapide. Heureusement, notre cher président est sur place. Quand on voit aussi la santé mentale de nos jeunes, on a de quoi s'inquiéter. Bon, je pense qu'il faut que j'arrête, sinon ma chronique presque positive va finir par être comme le reste de l'émission, déprimante. Donc, Alexandre, on est en juin. Qu'est-ce qu'il y a de super important et positif qui arrive bientôt ?
Je sais. Amazon engage 20 millions de dollars en Australie. C'est le plus gros investissement de la tech à ce jour. 20 millions ?
Ouais, 20 millions. C'est le plus gros investissement de la tech à ce jour, Alexandre. Oui, mais non, c'est pas ça que je pensais.
Moi, je sais. Ampli Energy va lancer en Afrique du Sud un programme de 450 MWh de capacité renouvelable.
Oui, mais je pensais plus proche de vous deux. Là, oui, c'est proche. On vient avec l'émission, bien sûr. Mais je parle plutôt d'un truc important pour les profs comme vous.
Ah, je sais. 200 millions d'euros de soutien supplémentaire renforçant la loi de la programmation de la recherche et préservant les moyens universitaires.
Oh, t'es trop forte, Amina.
Non, en plus en lien avec le plaisir, le repos, vous voyez quand même, les vacances. Mais oui, les vacances, c'est quand même plus fun que Trump, Netanyahou et tout le reste. On en oublierait presque notre cher Poutine. Et surtout, c'est positif, les vacances. Alexandre, par exemple, tes vacances de rêve, ce serait où?
Alors, mes vacances de rêve, ce serait sur un paquebot au Qatar qui ferait le tour. Ouais, ce serait pas mal. Ah ouais. Il ferait des ronds au large du Qatar.
Des ronds au large du Qatar.
Une escale tous les jours.
Ah, et tous les jours au même endroit?
Ouais.
Oh, eh bien, je pense que j'ai une solution pour toi, Alexandre. C'est incroyable. Je vais vous proposer des vacances de rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. On y va?
Ok, mais pas en avion, s'il te plaît.
Pas en avion, on part en bus. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
Allez, après 17 heures de bus, 45 euros par personne...
Oh, j'ai vu qu'on est à Copenhague, c'est top en été. Trop bien Arnaud, le soleil, la campagne, les forêts, la mer, c'est top, tu as bien joué.
Merci Alexandre.
Mais pourquoi on est devant un immeuble? Il doit faire au moins 20 étages ce truc.
Oui, c'est ça, 60 mètres de haut.
Mais je comprends pas, alors elle est où la forêt?
Allez, on monte, on va chercher nos chambres.
Oh, c'est marrant, sur la carte magnétique de ma chambre, c'est pas marqué étage, mais dyke, c'est drôle le danois.
Pas sûr que ce soit juste un hôtel, ça.
Allez, on pose des affaires, on se rejoint dans 10 minutes pour monter en haut.
Ah, c'est quoi ce truc, Arnaud?
Tu n'as jamais vu de piste de karting, Alexandre?
Mais pourquoi une piste de karting en haut d'un immeuble dans Copenhague?
Techniquement, elle est sur 3 niveaux, 14 virages, 15 cartes électriques avec des haut-parleurs pour faire le son de Formule 1.
Non, mais pourquoi?
Et là, il y a plein de toboggans, c'est quoi cette horreur?
En fait, il y en a trois, dont un qui est un toboggan à chute libre. C'est une première mondiale en mer. 10 étages, descente verticale à grande vitesse, sensation forte garantie, Alexandre.
En mer? Mais pourquoi en mer?
On n'est pas sur un immeuble, là?
On est sur un immeuble qui flotte. On est sur le Norwegian Prima. Plus besoin d'aller aux Caraïbes pour faire des croisières sur des bateaux immenses ou même au Qatar avec plein de trucs dont tu n'as pas besoin. Tu peux maintenant aller à Copenhague et passer par Berlin. C'est marqué sur leur site internet. Perso, je ne sais pas comment il va à Berlin, le truc. Dans Tallinn, Helsinki, Stockholm, tout ça en 10 jours. Alors personnellement, je suis sûr que c'est super beau.
Mais est-ce qu'on a besoin d'une piste de karting, d'un toboggan en chute libre, d'un théâtre, de plein de piscines, d'un casino, d'un centre de réalité virtuelle et de plein d'autres trucs?
Ah, je sais, on reste 10 jours à bord, on doit vite s'ennuyer quand même, faut bien s'occuper.
Voilà, Alexandre, tu as raison, comme d'habitude, il faut bien s'occuper.
Mais ça doit consommer un max, ce truc, non?
Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va calculer tout ça. Est-ce que vous êtes prêts?
Oh bah oui.
Oui, je ne suis pas sûre, mais...
Alors, d'après le prospectus que j'ai ici, j'ai les informations suivantes sur le bateau. Lancement en 2022, 295 mètres de long... 41 mètres de large, 3215 passagers.
15 cartes électriques pour 3215 passagers, on va pas en faire souvent.
1350 membres d'équipage, moteur diesel électrique pour les générateurs de puissance et pod azimutaux pour la propulsion. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plus de 20
pods pour diriger.
Plus de 20 restaurants, bars, théâtres, spas, piscines, salles de sport, salles de cinéma, mini-golf interactif. Bref, ça doit consommer un max tout ça.
Ah oui, vous êtes sûr?
Alors d'après mes calculs savants, on est sur une énergie consommée de 2000 MWh et des émissions de CO2 d'environ 800 à 1000 tonnes, soit 0,2 à 0,25 tonnes par personne pour 10 jours. Ça va, c'est juste 300 à 500 000 euros d'énergie.
Comment ça, ça va? C'est énorme!
Mais c'est énorme, comment ça représente quoi la consommation comme taille de ville et sur combien de temps? Par exemple, si je compare avec une ville, c'est quoi?
Donc pour faire simple, c'est 20 000 foyers européens en consommation électrique sur 10 jours.
Oui, mais les Européens, ils font pas du kart sur un bateau aussi.
Et il y en a combien des bateaux comme ça dans le monde?
Alors, il y en a juste 80 qui consomment en 10 jours autant que 1,6 million de personnes, soit une ville comme Barcelone et Munich.
C'est 1 600 000 personnes, c'est ça?
1,6 million, ouais, 1 600 000.
Et tu es bien gentil avec tout ça, tu critiques, mais moi je t'ai vu préparer ta chronique presque positive avec ChatGPT, toi aussi tu consommes.
Non, Arnaud, pas toi, c'est pas vrai.
Alors oui, mais comme tous les gens qui trouvent des excuses, j'avais anticipé ces questions et j'ai donc une excuse. Si on supprime une seule croisière d'un seul bateau, je peux faire 4 millions de requêtes ChatGPT, soit approximativement 100 ans d'utilisation d'après ChatGPT.
Waouh.
Aïe, aïe, aïe. Mais, et finalement, on parle d'un bateau de croisière normal, là. Hein.
Oui, d'un bateau de croisière normal.
Pas, mais pourquoi le bâtiment, il est aussi haut? Il fait 60 mètres.
Ben, c'est comme tous les bateaux de croisière de cette taille.
Hein?
Oui, il y a 14 ponts, un truc comme ça.
Ah, oh, la vache.
Il y a 5000 personnes à bord. Hein.
En tout cas, il y a un bon taux d'encadrement. Hein. C'est mieux encadré que dans le supérieur. Hein.
Ah oui, ça c'est
sûr.
Oui,
c'est sûr.
Une personne pour trois.
Ouais, à peu près, hein, même, ouais. Hein, ouais, quasiment 2,5. Ouais. C'est pas mal.
Voilà, donc on n'était pas loin de ton rêve d'aller au Qatar faire du bateau.
Ouais.
Mais comme je sais que tu n'aimes pas prendre l'avion, je me suis dit, tiens, on va essayer de trouver quelque chose en Europe. Et j'ai trouvé.
Merci beaucoup.
Mais par contre, c'est plus long d'aller de Lille à Copenhague en bus que d'aller de France au Qatar en avion, Alexandre.
Ouais, mais on peut le faire en train.
C'est pareil, le temps, c'est pareil. J'ai comparé voiture, avion, train, bus. C'est le bus le plus rapide.
Incroyable.
Eh ben, ça promet.
Et le moins cher aussi, bien sûr.
Eh ben, merci Arnaud pour cette chronique presque positive.
De rien.
Je crois que le plus déprimant, c'est que c'est même pas une invention complètement fantasque du moment. Non, non, c'est le truc normal. Là.
Ah oui, c'est pas une invention qui va faire faillite dans 4 ans. C'est un truc qui tourne et qui va être de plus en plus gros parce que, comme celui-là, il y a une piste de karting sur 3 étages. Ils vont sûrement faire un truc encore plus grand pour qu'il fasse 5 étages, traverser tout le bateau, ça se trouve. Non, donc ça va faire que ça va que s'améliorer, dirons-nous.
Ouais, mais les cabines qui seront à proximité de la piste de kart seront moins chères.
Après, c'est des kartes électriques, donc tu les entends pas, sauf quand ils font le bruit de Formule 1, bien sûr.
Alors ouais. Attends, c'est quoi cette histoire de pods diesel là?
C'est pour les directions, c'est des trucs qui sont orientables, comme ça le bateau il peut se diriger dans toutes les directions. Ils sont tous faits comme ça dans les gros
bateaux. Magnifique, magnifique. Je suis sans voix.
Eh ben, merci. Nous arrivons donc à la fin de les minutes de la fin du monde du mois de juin. Merci de nous avoir suivis dans les minutes de la fin du monde sur Radio Campus Lille, 106.6 FM, sur le DAB+, sur internet campuslille.com. Vous pouvez toujours nous envoyer des mails. Mais oui.
On n'a toujours pas eu de réponse, toujours pas eu de mail.
Non,
c'est pas.
Ah, c'est triste.
Ouais.
Je pense que je vais essayer d'envoyer un mail, mais comme j'ai jamais compris l'adresse mail, je ne vais pas y arriver.
MFM comme minute fin monde, tu vois. MFM.
Ah oui, MFM.
Voilà. Underscore.
Underscore. Le truc en dessous du 8.
Ouais. Campus ouais. Lille.
Campus Lille, tout attaché.
Ouais.
Ok.
Je crois. @proton.me.
@proton, comment t'écris proton?
proton.
proton.me. Ah oui, d'ailleurs, d'accord. Bah, je pense que les auditeurs ont compris.
Voilà,
on verra si ça marche cette fois-ci, Alexandre.
Merci. Et donc, on se retrouve Alexandre. Le mois prochain, en juillet, pour l'été, les vacances, pour ceux qui peuvent en prendre. Et on laisse la place à la programmation musicale de Radio Campus. Bon mois à tous et à toutes.
À bientôt.
Merci.
The world keeps turning, our jewel is turning black. No morning sunrise to light the road back. Stop for a moment, why don't you listen for a while? I know you've heard and ignored these words countless times. Dark waters rising, dark waters high. There's something on my mind that I can't disguise.
judge the reason. Search for honesty, but deep inside you know too well you never can be free. But the chains and of the torture that vex from deep within take hold of body, of mind, of soul, of blood, of bones, of skin. Dark waters rising, dark waters high. There's something on my mind that I cannot disguise. Dark waters rising, dark waters high. This isn't a time to live, this isn't a time to die. Isn't a time to live, nor a time to die.